En ce jour de rentrée, nous recevons Brigitte Bachelard, directrice de la HEARC. David, c'est à vous.
Bonjour Brigitte Bachelard.
Bonjour.
En direct de Berne, à des rentrées, vous en avez vécu des dizaines, vous, comme étudiante à la Sorbonne ou à l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration. Vous avez connu les grandes artères parisiennes et depuis 16 ans, votre décor, c'est plutôt les pâturages boisés, on va dire, à la tête de cette haute école qui est le fruit de l'union de trois cantons, Neuchâtel, Jura et Berne. Plusieurs autres écoles, l'Uni, Polytechnique, annoncent des effectifs en hausse en cette rentrée. Chez vous, c'est plutôt stabilité. Alors, en ces temps de Covid, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
C'est un peu les deux. Bien sûr qu'on préfère des rentrées qui sont en augmentation du nombre d'étudiants. En même temps, cette année, comme tout le monde le sait, c'est une rentrée un peu spéciale. Le fait d'avoir un petit peu moins d'étudiants dans nos locaux est peut-être une chance.
Et est-ce qu'il y a un peu d'angoisse au début de cette nouvelle année qui est finalement pleine de points d'interrogation pour vous, sur la qualité de l'enseignement, sur la façon de le faire ?
Oui, un peu bien sûr, mais on est quand même assez confiant. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place un peu partout, d'ailleurs dans toutes les écoles de la HESSO. On a eu un séminaire récent et pratiquement toutes les écoles ont les dispositifs qui se ressemblent, c'est-à-dire port du masque, distance, quand elle peut être maintenue, qui permet d'enlever le masque, gestes barrières. Voilà, donc je crois qu'on est prêt. Après, il est clair qu'il y a toujours des inconnus, mais nous avons appris l'agilité et l'adaptation depuis le printemps.
Alors quand vous gardez justement cette période de mars à septembre, qu'est-ce que vous en retenez en fait ?
Alors c'était une période compliquée, mais qui nous a permis de découvrir beaucoup de choses. La première peut-être, c'est qu'elle nous a permis de réaliser à quel point le présentiel a de la valeur. Paradoxalement, c'est-à-dire que tout le monde a parlé du online, l'avantage de pouvoir enseigner à distance ou d'étudier à distance, qui a été effectivement constaté. Mais après quelques mois, presque tout le monde, enseignants et étudiants, ont redonné de la valeur à se rencontrer et aux interactions en présence.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que du côté des politiques, on s'enorgueillit plutôt de cette réussite technique, on va dire.
Alors c'est une réussite technique indéniable, je crois que ça nous a vraiment sauvé la vie, on peut dire. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas été capable de faire ce qui a été fait cette année. Ça nous a permis de continuer, d'avoir des semestres qui ont pu complètement se donner en ligne, mais ça nous a aussi permis d'en vérifier les limites et surtout de donner de la valeur à l'enseignement en présence. Ça nous a aussi permis de nous apercevoir que nous pouvons enrichir cet enseignement en présence grâce au support de ce qu'on peut faire en ligne. Et donc en fait, c'est plutôt un enrichissement qu'une substitution.
Alors que dans les programmes politiques, en ce moment, on est en train de discuter au Conseil national, je crois, en tout cas dans une des deux chambres, de ce paquet formation-recherche pour 2021-24, avec des milliards en jeu. Et on entendait Guy Parmelin, le ministre, dire que la transition des hautes écoles vers l'enseignement digitalisé, c'était un des objectifs.
Alors effectivement, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs formes possibles. Aujourd'hui, on est dans une société multiple et les personnes sont parfois en emploi quand elles étudient. Donc la transition numérique va permettre finalement d'adapter et d'amener de la souplesse dans les modes d'enseignement. Mais je pense et je suis même convaincue qu'elle se substituera jamais complètement à l'enseignement frontal.
Aujourd'hui, alors à ces politiciens qui sont en train de parler des milliards qu'on va pouvoir octroyer à la formation et la recherche, qu'est-ce que vous leur diriez ? Quel est le souhait le plus cher que vous pourriez formuler, vous, en tant que directrice d'un établissement de haute école spécialisée ?
Je pense qu'ils ont effectivement, ils ont tout à fait raison de mettre quelques milliards dans la corbeille, parce que les investissements pour développer cet enseignement à distance sont coûteux. Et puis il y a énormément de technologies différentes, l'enseignement en ce qu'on appelle synchrone, en direct ou bien asynchrone. On peut déposer des capsules pour les étudiants. Ces étudiants peuvent les réécouter quand ils ont parfois des difficultés pour suivre un cours. Ça leur permet de les réécouter seuls à la maison. Donc ce sont des outils extrêmement précieux. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de substitution, donc il y aura effectivement des dépenses supplémentaires. Donc en cela, je pense que je suis tout à fait favorable à ces investissements, mais nous devons continuer parallèlement à privilégier tout ce qui est enseignement pédagogique, le lien avec l'étudiant, les groupes d'étudiants entre eux, enfin tout ce qui est vraiment lié au présentiel. Et donc cette voie parallèle, évidemment, demande des ressources.
La HES, les HES sont encore jeunes. Il y a une vraie concurrence entre ces établissements quand même, Brigitte Bachelard. On est un petit territoire, la Suisse romande. Elles sont nombreuses, parfois à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre. Est-ce qu'il y en a trop aujourd'hui ?
C'est une question piège. Je ne pense pas qu'il y en ait trop, parce que je crois qu'une des caractéristiques des HES, c'est justement la proximité. C'est d'offrir proche, proche des personnes un enseignement. Par exemple, je prends évidemment une école que je connais bien, la Haute École Arc. Nous sommes dans un territoire qui est un territoire assez dispersé. Et donc, le fait d'avoir relativement près de chez soi une école est vraiment essentiel. Parce que même si l'enseignement à distance se développe, l'école, enfin l'institution reste un pôle extrêmement important. Nous avons par exemple un Fab Lab où les étudiants peuvent venir, d'ailleurs tous les étudiants, pas seulement ceux de la HES, ils viennent sur place, ils se rencontrent, ils fabriquent des objets. Voilà, donc je veux dire, la présence physique dans l'espace est importante. La Suisse romande est petite, certes, mais elle est aussi très grande et très variée. La HESSO comporte beaucoup d'écoles, mais chaque école finalement répond vraiment aux besoins de son territoire. Et je crois que ça, c'est important et c'est une des grandes forces de la Suisse.
Y compris quand on est à Neuchâtel et à Yverdon, avec des choses qui sont très similaires. Il y a 37 kilomètres entre ces deux villes.
Oui, mais on peut collaborer.
Ça se fait d'ailleurs.
C'est d'ailleurs ce qu'on fait.
Les égoïsmes cantonaux, les querelles de clochers, ça existe encore ?
Alors, pas trop pour les scientifiques et les enseignants. Je crois qu'il y a toujours une solidarité scientifique qui passe au-delà des frontières cantonales et même nationales. Je crois qu'on l'a constaté depuis de nombreux siècles.
La crise économique, avec justement ce type d'école qui est très imbriqué dans le tissu économique. Vous êtes dans l'arc jurassien, vous êtes imbriqué dans le tissu notamment horloger, microtechnique. Quel impact ça a, le fait que voilà, ces entreprises-là sont en train de se dire ah, quel va être notre avenir? Est-ce qu'on va devoir licencier beaucoup de gens? Les écoles que vous dirigez, en quoi elles sont impactées? Enfin, en quoi elles sont touchées? J'aime pas ce verbe impactées.
Alors, elles ont été touchées effectivement au début de la crise assez brutalement, un peu comme tout le monde finalement, parce que nous travaillons avec les entreprises, notamment les entreprises de l'arc jurassien, comme vous le mentionnez, qui sont où on retrouve beaucoup de sous-traitants de l'horlogerie, des entreprises qui sont très liées à l'international et évidemment qui ont été touchées de plein fouet. Par la fermeture des frontières notamment et la difficulté d'obtenir de la livraison de certains produits. Donc pour nous, ça se traduit tout de suite par un arrêt de certains projets de recherche, projets de prestation de services. Mais nous avons constaté une forte reprise depuis que progressivement l'économie s'est remise en marche. Et notre rôle finalement, c'est d'accompagner ces entreprises aussi, de leur fournir des prestations de recherche qui leur permettent d'évoluer. Donc en cela, je crois qu'on a un destin assez lié et nous avons constaté une certaine amélioration, même si, bien sûr, ça reste encore fragile.
Est-ce que pendant cette crise, vous ne vous êtes pas dit aussi parfois, est-ce qu'on enseigne les bonnes choses? Est-ce qu'on forme au bon métier?
Alors pas seulement pendant la crise, c'est une question qu'on se pose finalement tous les jours. Nous devons travailler sur des métiers que pour certains, nous ne connaissons pas encore. Nous devons également nous investir dans la formation continue, c'est-à-dire permettre aux personnes actuellement en emploi d'être capables d'absorber des mutations pour aller vers une nouvelle société. Et oui, on se pose cette question. On n'a pas toujours toutes les réponses, mais je crois qu'on arrive quand même à anticiper. À la Haute École Arc, nous avons développé ce qu'on appelle l'Agile Academy. Comme le nom l'indique, c'est une formation qui développe l'agilité, la capacité d'adaptation, qui reste un des grands fondamentaux aujourd'hui.
Vous parlez de formation continue. On entend souvent ça dans les discours politiques aussi, formation continue. Mais est-ce qu'on donne vraiment les moyens à la formation continue d'être mise en place?
Je pense pas assez. La formation continue, pour moi, a autant de valeur que la formation de base. Enfin, les deux ont une grande valeur, en réalité. Et la formation continue, elle doit être autoportée. Donc, elle doit être financée par les personnes qui s'inscrivent ou les entreprises qui inscrivent leurs collaboratrices, collaborateurs. Et évidemment, il y a de grandes inégalités entre des formations continues qui sont dans des domaines comme l'industrie ou des domaines économiques et des domaines artistiques ou des domaines de santé sociale qui sont beaucoup moins « riches », entre guillemets. Et donc, il est évident que les conditions de départ ne sont pas les mêmes.
Brigitte Bachelard, on l'a dit, vous avez un parcours intéressant. Vous êtes partie de Paris. Pour vous, c'est vraiment les débuts. Là. Vous faites partie de la promotion Averroès à l'ENA. C'est une promotion célèbre de cette grande école. Notamment avec vous, il y avait deux anciens ou anciennes plutôt ministres de la Culture, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay et le secrétaire général actuel de l'Élysée, Alexis Kohler. Qu'est-ce que vous gardez de cette formation-là? Qu'est-ce que vous avez amené ici dans ce tissu suisse?
Ça, c'est vraiment une question très difficile. Une certaine capacité d'analyse, je crois, rapidité d'intégration à différents environnements. Après, c'est complètement différent. Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert la formation en Suisse comme étant une formation extrêmement performante, mais d'un autre type, une formation beaucoup plus adaptée au terrain. et qui est quand même, enfin qui le prouve par les résultats économiques du pays. Donc c'est une formation qui est pour moi vraiment différente et qui a été extrêmement intéressante. Maintenant l'ENA, c'est vrai qu'on la critique beaucoup aussi, mais il y a quand même certains atouts. On a vraiment cette grande capacité d'analyse qui se développe dans cette institution.
Clairement. Donc si je vous écoute bien, les Suisses peuvent être fiers de parler de leur système de formation. Ils aiment bien le faire quand ils vont en France. Hein.
Oui, alors je crois qu'ils ont tout à fait raison, vraiment. Je crois que c'est vraiment une pièce maîtresse du dispositif économique de la Suisse.
Ouais. Brigitte Bachelard, merci. Vous êtes à la tête de la HEARC, la Haute École de l'Arc Jurassien. Vous êtes notre invitée jusqu'à 8h en ce jour de rentrée.